En ce début d'année 2026, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, sa communauté des chapelains, plus largement toute sa communauté d'accueil, invite évidemment les pèlerins du monde entier à venir vivre ici un pèlerinage à la grotte des apparitions, à venir, à se mettre en marche, mais bien plus qu'un déplacement géographique, le sanctuaire invite aussi un véritable pèlerinage intérieur. Cette année 2026 s'ouvre sous le signe de l'Annonciation avec cette parole de l'ange adressée à Marie. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Pour en parler, pour comprendre ces paroles, nous accueillons le Père Michel Dauban. Vous êtes le recteur du sanctuaire. Bonjour Père Michel.
Bonjour David.
Ensemble, nous allons nous projeter un peu sur cette année 2026, découvrir ce qui est à vivre, bon de vivre, ces grandes dates, ces grands chantiers. Ça sera encore une fois à Lourdes d'une année chargée. Mais d'abord, au sujet de ce thème pastoral de l'année 2026 qui s'appuie sur le récit de l'Annonciation, pourquoi, cette première question, avez-vous choisi précisément cette étape, ce moment de la vie de Marie comme boussole un peu pour les pèlerins de cette année 2026?
Alors l'idée en 2026, c'est de faire suite à 2025, pardon, et donc de s'inscrire dans cette année jubilaire où nous avons été invités à prendre conscience de l'espérance qui nous habitait, qui est fondamentalement liée à notre foi, et de fait de réaliser au quel point nous sommes marqués par la grâce et la grâce de notre baptême. Les premières paroles de l'ange à la Vierge Marie à l'Annonciation, c'est « Je te salue, comblée de grâce ». La Vierge a été comblée de grâce, alors nous le sommes peut-être pas autant comblés, mais malgré tout, à notre baptême, il y a quelque chose de décisif qui a fait que nous avons été marqués par cette grâce de Dieu. Et il nous semblait important que dans les temps difficiles que nous pouvons traverser à de multiples manières, eh bien, nous puissions effectivement redire aux pèlerins qui viendront à quel point ils s'inscrivent, nous nous inscrivons tous dans cette continuité que la Vierge Marie a tracée, puisqu'elle a été la première à bénéficier pleinement de cette grâce divine.
C'est vrai que l'Annonciation a une place particulière dans le message de Lourdes, puisque c'est le jour de l'Annonciation que finalement la Vierge Marie révèle son nom.
Bien sûr, c'est en ce 25 mars qu'il y a cette révélation extraordinaire à la petite Bernadette qui ne comprenait pas du reste ce que la Vierge lui disait. Je suis l'Immaculée Conception, en bigourdant, qu'elle s'est empressée d'aller dire à l'abbé Peyramal. Et de fait, c'est le départ d'une magnifique histoire, comme s'il y avait là effectivement une authentification de ce qui s'était passé à la grotte de Massabielle.
Pendant ce moment de l'Annonciation, la réponse de la Vierge Marie, c'est de dire oui. C'est le oui de Marie. On peut imaginer que ce serait un thème qui sera approfondi en 2026 et qui fait peut-être écho à notre propre oui.
L'objectif, c'est effectivement de réaliser à quel point, quelles que soient nos difficultés de foi, bien sûr, mais nos difficultés tout court, les épreuves de la vie, tout ce qui peut nous marquer, fondamentalement, c'est bien cette grâce que nous avons reçue et qui nous donne de lever la tête, quoi, de lever la tête dans les temps difficiles et puis de rendre grâce pour précisément cette grâce dans les moments où ça va mieux, parce qu'il y en a quand même, fort heureusement.
Lourdes est évidemment connue comme lieu de pèlerinage physique, on se déplace, on vient, on prend le train, on prend l'avion, on prend le car. Bon, en introduction, je disais peut-être aussi que c'est l'occasion d'un pèlerinage intérieur. Est-ce qu'on peut parler à Lourdes d'un pèlerinage intérieur ?
Alors, je pense que le pèlerinage à Lourdes a vraiment comme caractéristique d'allier à la fois, alors de mon point de vue magnifiquement, mais une démarche communautaire et une démarche individuelle. personnel. Ce qui marque à Lourdes, c'est les foules, c'est la procession, c'est la messe internationale à la basilique Saint-Pédis, c'est l'adoration eucharistique, c'est la procession en suivant le Christ dans l'Eucharistie. Ce sont toutes ces foules dans lesquelles nous sommes pris et dans lesquelles nous sommes renforcés d'autres fois, parce que nous ne sommes pas les seuls, loin de là, à la professer, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine. Et en même temps, il y a cette démarche profondément individuelle que je vais accomplir lorsque je vais aller à la grotte pour vénérer le rocher, lorsque je vais aller aux piscines pour me baigner, vivre le geste de l'eau, lorsque je vais aller allumer un cierge pour mes intentions à moi ou les intentions qui m'ont été confiées pour prier pour ma grand-mère ou pour mon enfant, etc. Donc, je crois que l'intérêt, alors oui, c'est à la fois ce pèlerinage tout à fait personnel dans lequel je me ressource fortement par rapport à ce que je vis, mais aussi une expérience d'église qui marque, et c'est l'enjeu véritablement de la pastorale du sanctuaire.
Et c'est vraiment une différence finalement avec un lieu de retraite spirituelle. Lourdes n'est pas un lieu de retraite. On y vit un pèlerinage avec d'autres.
Wow. Alors on peut vivre une retraite dans le sanctuaire, certains le font, mais rester isolé sans rien dire tout le temps, c'est difficile quand même. Hein. Parce qu'effectivement, on est invité à partager, à communier, et à communier pas uniquement à l'Eucharistie, à servir, à être servi, à engager un dialogue, à mettre une main sur l'épaule, à soutenir une personne. Et donc, de fait, alors oui, on peut dire que c'est une retraite dans la mesure où, de fait, on est fortifié dans la foi, dans l'espérance que donne la foi et dans la charité qui en découle.
Vous allez donner, en tant que recteur du sanctuaire, un certain nombre d'occasions de se réunir à Lourdes. Déjà, là, nous démarrons cette année 2026. Il y a tout de suite des premières dates de rassemblement, de rencontres, de fêtes. Je pense notamment au 11 février. Vous êtes déjà dans la préparation de ce moment?
Oui, tout à fait. C'est toujours tous les ans ces journées de Lourdes qui permettent de réunir les directeurs de pèlerinage, les présidents d'hospitalité, les aumôniers, et de faire en sorte que la fête elle-même du 11 février soit absolument magnifique, avec toutes les personnes qui viennent à la grotte pour se tourner vers la Vierge Marie. Et de fait, c'est aussi l'occasion précisément d'accueillir des foules très très importantes. Donc c'est une date, une échéance importante que nous soignons parce que beaucoup de choses décisives peuvent se jouer là, pour chacun, pour lui-même, mais aussi en tant qu'organisateur, pour amener aussi d'autres pèlerins tout au long de l'année.
C'est vrai que des pèlerinages, ils sont nombreux, peut-être près de 500 chaque année. Évidemment, il y a ceux que l'on connaît, ceux que l'on retient parce qu'ils sont emblématiques. C'est le pèlerinage de l'Ordre de Malte, c'est le pèlerinage militaire international. Ce sont toutes ces grandes dates, évidemment, du pèlerinage national de l'Assomption, aussi autour du 15 août, le pèlerinage des Gitans, des gens du voyage. Est-ce que parfois, à ne retenir que les grands pèlerinages, on n'oublie pas les plus petits pèlerinages diocésains? Est-ce que vous arrivez, pardon, je viens à cette question, à saluer chacun d'eux, à retenir leur date? Ça ne doit pas être simple.
Alors, je pense que les grands pèlerinages n'occultent pas les petits. C'est peut-être ce qui est petit qui est grand, du reste. Bon, cela étant, alors oui, je tiens, avec l'ensemble des chapelains, avec le vice-recteur, à saluer chacun des pèlerinages francophones. Il y a des chapelains dans les différentes langues qui ont cette mission pour leur langue respective. Alors après, quant à retenir exactement quand va venir précisément tel diocèse, non, là j'avoue que je consulte mon agenda. Mais de fait, il y a une attention avec un agenda qui est effectivement très chargé, parfois trop chargé parce que trop concentré sur certaines dates, parce que tout le monde veut venir à ces moments-là. Donc ça me permet de donner de lancer une invitation, c'est n'hésitez pas à venir, y compris pendant l'hiver. Nous avons vécu de très très beaux moments depuis le mois de novembre, nous avons vécu de très très beaux moments avec ce temps de l'Avent et de la Nativité, et puis même pendant la saison des pèlerinages, il y a des périodes qui sont moins chargées que d'autres et où on peut goûter peut-être encore plus fortement le temps à passer à la grotte ou la file d'attente aux piscines qui va être un peu moins longue que d'habitude. voilà, donc non, tous les moments et tous les lieux, tous les pèlerinages, tous les groupes sont importants et on fait tout pour qu'ils soient le mieux accueillis possible. Alors après, on reste humain avec les moyens qui sont les nôtres, mais tout le monde se mobilise beaucoup et moi je rends grâce pour l'ensemble de la communauté d'accueil du sanctuaire pour ce sens du service et de l'accueil qu'elle a.
Cette communauté va mettre aussi en valeur des dates particulières cette année, des dates anniversaires. Vous savez que 2026, au regard des dates et des anniversaires, il y a quand même des belles choses qui vont se vivre. On entre dans une année des 160 ans. Et ce sera donc la 160 ans de l'inauguration de la gare de Lourdes. Et puis aussi, évidemment, l'arrivée des premiers trains de pèlerinage. Ça, c'est quand même à noter.
Alors, vous venez d'évoquer l'inauguration de la gare de Lourdes. Avec ce premier train de pèlerinage, effectivement, ce fut une date très très importante, alors qu'il nous plaît d'évoquer et que nous allons évoquer. Alors concrètement, on va continuer à préparer, on va voir comment ça peut se dérouler. Mais de fait, moi, je suis marqué par cette image que j'ai dans la tête en disant voilà le premier train de pèlerins qui est arrivé lorsque des pèlerins sont descendus de la gare de Lourdes. Eh bien, ils sont descendus avec les bannières de pèlerinage qui étaient plus nombreuses qu'aujourd'hui et qui, de fait, ont accompagné les pèlerins qui ont commencé une procession depuis la gare en descendant par le boulevard de la Grotte et en arrivant parce qu'est aujourd'hui la porte Saint-Michel et pour aller directement à la Grotte. Donc, symboliquement, cette dimension de marcher en chantant la Vierge Marie, en l'implorant et en allant jusqu'à la Grotte, peut-être qu'on a quelque chose à non pas à retrouver parce qu'on ne l'a pas oublié, mais en tout cas à se remémorer pour être revivifié dans la démarche que nous vivons et qui est très très belle.
C'est important. Alors des événements, il y en a plusieurs. Ça coïncide évidemment 1866 avec l'arrivée des pères de Garaison, hein, qui vont fonder aussi le sanctuaire, orchestrer le pèlerinage. C'est 150 ans des dédicaces, des basiliques, et puis aussi notamment le 150e anniversaire du couronnement de la statue de la Vierge Marie, qui ça aussi était pour l'époque un événement. Ça reste toujours un héritage. Comment fait-on, Père Michel Dauban, de ne pas enfermer finalement Lourdes dans son histoire quand on célèbre comme ça des dates anniversaires? Et comment arrive-t-on à transmettre un Lourdes d'aujourd'hui à travers cette richesse historique?
Merci pour la question. Je fais un tout petit retour en arrière. L'arrivée des pères de Garaison, c'est l'arrivée à la demande de Monseigneur Théas des premiers chapelains et du premier recteur, le père Rémy Saint-Pé. Et donc, c'est la mise en place du cœur de ce qu'est l'animation spirituelle du sanctuaire jusqu'à aujourd'hui, avec une communauté de chapelains qui est de plus de 30 prêtres. Et donc, on est dans le constitutif, dans le fondamental de l'animation du sanctuaire. Vous avez évoqué le couronnement, l'anniversaire du couronnement de la Vierge Marie. Bah, de fait, ce couronnement, au-delà d'une date très très précise, début juillet, le 2 ou le 3, me semble-t-il.
Le 3 juillet,
voilà, c'est ça. De fait, c'est l'occasion de se rendre compte aussi qu'à chaque fois que nous méditons le chapelet avec les mystères glorieux, bah, c'est ce cinquième mystère précisément que nous invoquons et qui nous aide à prier. Autrement dit, pour en venir à votre question, je pense que on s'inscrit dans ce qui est notre fondamental que nous lègue l'histoire, mais pour vivre vraiment aujourd'hui et pour être nourri aujourd'hui même dans notre foi. Je pense pas que nous soyons enfermés dans l'histoire, parce que il y a bien des évolutions depuis 1866 qui sont très très importantes au sein même du sanctuaire, même à vue humaine. On voit tous, si on n'est pas tout jeune évidemment, toutes les évolutions qui se sont faites. Et je pense que l'art, l'intérêt et ma mission, me semble-t-il, de recteur, c'est précisément de conjuguer à la fois cet héritage qui nous a été légué et que nous devons honorer, et en même temps, eh bien, cette exigence de renouvellement, de nouveauté, de ne jamais oublier précisément ce qui est le cœur pour en être à nouveau vivifié et nourri.
L'année 2026 sera aussi ponctuée d'un certain calendrier de travaux, et ça c'est souvent les travaux, c'est pendant l'hiver. Au moment où nous parlons, s'achève la fin des travaux de filtration des piscines. Ça, vous avez mis un point d'honneur quand vous êtes arrivé en tant que recteur pour arriver à cette date, pouvoir permettre de revenir un peu comme à l'habitude, avec un bain proposé pour tous aux piscines. Vous vous réjouissez de la fin de ces travaux ?
Mais bien sûr, c'est un axe fort que j'ai souhaité déjà depuis plusieurs années, et les tranches de travaux sont succédées tous les hivers. C'est tout à fait fondamental de pouvoir permettre aux pèlerins de répondre à cette demande de la Vierge Marie, allez boire à la fontaine et vous y lavez. Et le bain, avec le geste de l'eau qui se vivra en dehors du bâtiment des piscines, ce bain est à ce point important qu'on ne puisse pas le négliger. Et de fait, il fallait, suite au Covid, n'oublions pas, là c'est l'histoire beaucoup plus récente, mais suite au Covid et tout le bouleversement que ça a suscité sur toutes les questions hygiéniques, sanitaires, etc., et puis simplement de renouvellement du système hydraulique, c'était fondamental de pouvoir effectuer ces travaux pour répondre à la demande des pèlerins. Et vraiment, je me réjouis que nous arrivions au bout de ce renouvellement du bâtiment actuel.
Nous aurons l'occasion de revenir sur les travaux, les aménagements, les projets qu'a le sanctuaire. Mais peut-être notons ce souhait que vous avez formulé, c'est la rénovation complète du chemin de croix des Espélugues. C'est un chantier immense, 115 statues composent les stations du chemin de croix. C'est peut-être plus de 200 000 euros qui seront nécessaires de réunir pour parvenir à restaurer ce chemin de croix. Il y a une urgence, il y a un besoin.
Il y a une urgence dans la mesure où si on devait effectuer une statistique pour se rendre compte ce que majoritairement le pèlerin vient faire comme démarche de foi dans le sanctuaire, il y a bien évidemment le fait d'aller à la grotte, ça je pense que 100% des pèlerins y passent. Après je pense que le fait de faire le chemin de croix, comme disent les pèlerins, et le chemin de croix des Espélugues arriverait assez rapidement. C'est un chemin de croix qui est très très beau, qui est très ample, c'est sûrement un des plus beaux que l'on peut voir et que l'on peut donc de fait méditer dans ce site merveilleux, dans cette magnifique montagne avec dimension d'escarpement, de relatives difficultés physiques. Alors c'est aussi la raison pour laquelle il y a aussi le chemin de croix qui est plus pour les malades sur la prairie, le chemin de croix de la résurrection. Mais de fait, on aime beaucoup ce chemin de croix des Espélugues. Et de fait, avec le temps, on voit bien qu'un certain nombre de statues ont été un petit peu abîmées. Évidemment, il y a les intempéries qui font leur effet. Il y a un nettoyage, il y a de la peinture, il y a, oui, une rénovation importante des 115 statues. Et donc, il me semble qu'il faut engager ce chantier pour notre joie et notre foi à tous.
Peut-être ma dernière question, souvent on dit à Lourdes que le sanctuaire c'est un peu une ville dans la ville. C'est vrai que plus de 55 hectares de superficie méritent tout un entretien, un travail au quotidien. Vous n'êtes pas maire de Lourdes, vous en êtes le recteur, mais comment vivez-vous cette charge de cette petite ville dans la ville ?
Alors déjà je collabore très bien avec monsieur le maire puisque je ne le suis pas. C'est vrai que c'est une entité importante au sein de la ville et j'essaie d'être vraiment attentif à toutes les problématiques humaines et aussi économiques de la ville, parce qu'évidemment c'est grâce au sanctuaire que des millions de pèlerins viennent dans la ville de Lourdes. Et nous avons à être vraiment main dans la main, partenaires, pour faire en sorte que l'accueil soit le meilleur possible, autant à l'intérieur du sanctuaire qu'à l'extérieur, puisqu'effectivement, il faut se nourrir, il faut dormir, il faut pouvoir prendre du temps, et puis profiter aussi de la région qui est absolument magnifique avec la montagne environnante. Mais de fait, il y a un enjeu d'humanité important à être bien conscient que si nous sommes une ville dans la ville, nous ne sommes certainement pas une ville isolée.
Merci Père Michel Dauban.
Avec plaisir.
À une prochaine fois.
Au revoir David, à bientôt.